L'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Présence Midi. Nous sommes ravis de vous accompagner durant votre pause déjeuner. Vous qui êtes peut-être en vacances dans notre région, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Direction, dans quelques minutes, les Hautes-Pyrénées, direction le village de Saint-Lary qui a vibré au rythme espagnol pour fêter les 40 ans de jumelage de ce village de la Vallée d'Or avec un village en Aragon qui s'appelle Boltania. Sur place, on écoutera le reportage d'Androse Jankovic réalisé la semaine dernière. Et puis, dans cette émission, eh bien, on parlera du golf. Le premier golf en France est arrivé dans les Pyrénées-Atlantiques. C'était à Pau. On parlera ensuite du golf qui a été créé à Argelès-Gazost. Ce sera avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes qui nous racontera l'histoire donc de l'arrivée de ce sport en France. Mais pour le moment, place à l'actualité régionale avec l'essentiel de l'info et les titres qui sont présentés par Clément Souroux.
Bonjour à tous, un ouvrier de 48 ans est décédé sur le chantier de la future ligne C du métro de Toulouse à La Bège. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Toulouse devient la seule ville de France à disposer d'un réseau public de fibre optique et de 4G utilisé pour les besoins des services municipaux. Dans les Hautes-Pyrénées, deux randonneurs ont été frappés par la foudre sur le GR10. Les autorités appellent à la plus grande prudence en montagne en cas d'orage. Les amateurs d'astronomie pourront observer une importante pluie d'étoiles filantes dans la nuit du 12 au 13 août sous un ciel qui s'annonce favorable en Occitanie. Enfin, en Aveyron, les courses de caisse à savon continuent de séduire un public toujours plus nombreux entre vitesse, créativité et convivialité. Voilà pour le rappel des titres sur Radio Présence.
Merci Clémence Roux. Ces titres seront développés dans moins d'une demi-heure à 12h30 dans le journal régional à tout à l'heure. Allez, dans un instant, direction les Hautes-Pyrénées, direction la Vallée d'Or et Saint-Lary qui a vibré au rythme espagnol pour les 40 ans de jumelage de ce village avec un village en Aragon, en Espagne. C'est dans 3 minutes. It's just another morning, Tuesday. I only feel like living day after day. Life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi.
Comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
Merci d'être avec nous à 12h06, Présence Midi en direct jusqu'à 13h, direction maintenant les Hautes-Pyrénées avec le reportage d'Androse Jankovic.
Chants et danses traditionnels, bal gascon, ambiance aragonaise, repas festif pendant 3 jours, Saint-Lary a vibré à l'heure et au rythme espagnol pour célébrer les 40 ans de jumelage entre ce village de la Vallée d'Or et un autre de l'autre côté des montagnes, Boltaña en Aragon. Partage, tradition, transmission, fête, ce sont les maîtres mots de ces festivités orchestrées par le comité de jumelage avec l'office de tourisme. Alors, d'où vient ce lien fort entre les deux contrées pyrénéennes? Comment le lien culturel est-il entretenu? Réponse avec Grégoire Santolaria, lui-même est natif de Saint-Lary et il est depuis 2 ans le président du comité de jumelage Saint-Lary-Boltaña.
Eh bien, Boltaña est une ville équivalente en population à Saint-Lary. Alors, Boltaña est une capitale administrative de la zone de plus ou moins du haut Sobrarbe, c'est la ville administrative, alors qu'Ainsa est une ville beaucoup plus à la fois touristique et en même temps une ville aussi de marché, de voilà ce qu'on peut dire, sur les deux principales villes du haut Sobrarbe.
Ça, c'est à peu près à 70 km de Saint-Lary.
Les deux villes sont à peu près à 70 km. Ainsa et Boltaña sont distantes d'environ 7 km, 7 ou 8 km.
Alors du coup, pourquoi c'est avec Boltaña que Saint-Lary est jumelé? Quels sont les points communs? Est-ce que c'est sur les défis touristiques, par exemple, que les villes se retrouvent, ou sur d'autres choses?
Non, la réalité, c'est que monsieur le maire de Saint-Lary de l'époque, monsieur Vincent Mire, qui est à l'origine du jumelage, pensait au départ se jumeler avec Ainsa. C'était au départ sa volonté. Mais il y avait déjà une approche avec Aro. Et donc, d'une certaine manière, on a dit, écoutez, on va se jumeler avec Boltaña.
Alors, en fait, ce qu'on comprend, c'est que finalement, ce jumelage entre les villages des Vallées d'Or et du Louron avec les autres villages d'Espagne, ça va un peu de soi quand on est ici. Finalement, c'est un peu l'évidence, ce jumelage.
Voilà. Alors, ce qui est important à rapporter ici, c'est que tout ça se décline sur la volonté d'un maire. Et il tenait vraiment à développer, à nourrir cette identité. Et son idée, c'était justement d'ouvrir la Vallée d'Or aux vallées pyrénéennes proches.
Et avec un tunnel qui aide bien.
Oui, justement. Alors c'est lui aussi qui a initié ce projet de tunnel pour désenclaver les deux vallées qui étaient enclavées en réalité. Il fallait faire un énorme tour pour rejoindre des lieux d'origine qui étaient en réalité à une heure d'ici.
Alors que, historiquement, on a eu la chance de le voir sur les ondes de Radio Présence depuis plusieurs jours, puisqu'on est en immersion dans cette Vallée d'Or, on voit bien qu'historiquement, il y a toujours eu des liens, des ponts, peut-être moins évidents que ce tunnel d'Aragnouette, mais en tous les cas, historiquement, il y a de toute façon une proximité et un lien assez évident.
Oui, il y a toujours eu des liens. Les relations entre la Vallée d'Or et les vallées pyrénéennes ici proches, notamment la région du Sobrarbe, est très 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 proche. C'est-à-dire que il faut savoir par exemple qu'au début du XXe siècle, des personnes d'ici des vallées pyrénéennes venaient se louer pour le travail ici. Il y avait un marché, je crois, à Rau, au mois de novembre ou quelque chose, où les parents amenaient leurs enfants de 10, 11 ans, etc., se louer dans des fermes, etc. Ce qui était le cas, par exemple, de la maman de l'ancien maire de Saint-Lary.
Ça veut dire que les populations ici, elles ont un peu une double culture, ou en tous les cas, ça fait partie de leur culture d'avoir cet apport espagnol.
Oui, tout à fait. Alors, ce que je disais, il y avait cet aspect des gens qui venaient se louer pour travailler ici, déjà très jeunes, ou des Français qui allaient travailler en Espagne pour des récoltes particulières. Que dire d'autre? Il faut dire pourquoi ces relations. Il y avait aussi des relations, si vous voulez, de pastoralisme.
Oui,
parce que, voilà, ce qui correspond aux fameuses lits et passeries qu'on connaît dans l'ensemble des Pyrénées. Bon, c'était le cas également pour nos vallées. Ce qu'il faut dire aussi, pourquoi cette relation assez intime, assez proche, c'est parce qu'on peut dire qu'une bonne partie de la population de Saint-Lary, par exemple, est d'origine aragonaise.
Et pourquoi ils sont venus ici ?
Ben, ils sont venus ici pour X raisons. Alors, ça peut être des raisons économiques, celles qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il y a aussi eu la guerre civile espagnole qui a ici amené des personnes qui se sont réfugiées en France, qui se sont installées. Par exemple, c'est le cas de mes parents. Mon père était un réfugié de cette guerre d'Espagne. Il faisait partie de cette 43e division qui s'est repliée en France. Et bon, il faut
alors, ils se sont repliés, faut s'imaginer quand même, ils se sont repliés en passant par l'école, par les ports, pas de tunnel, pas de route. Faut s'imaginer les conditions dans lesquelles ils sont arrivés ici.
C'était des conditions très dures, puisque, si vous voulez, les gens traversaient le Port Vieux et également la vallée du Rio Majou. Et alors, ceci se passait au mois d'avril, je crois, 1938.
Encore de la neige ?
Il y avait encore de la neige, il y a eu pas mal de catastrophes, de gens qui sont tombés dans les ravins, etc.
Mais est-ce qu'on arrive à quantifier la population qui est arrivée ? Parce que là, on parle de famille, on ne parle pas de personnes. Les pères de famille seuls qui fuyaient, c'était toutes les familles.
Alors, le repliement, cette retirada, si on peut dire, c'est-à-dire ce reflux, a été encadré par cette fameuse 43e division qui était la dernière division à résister en Aragon. Et donc cette division a replié l'ensemble de la population des vallées pyrénéennes, de Bielsa, etc., Ristain, et voilà. Ils les ont repliés, ils ont fait en sorte que cette population puisse venir en France dans des bonnes conditions, avec le bétail et tout. Alors ça représentait des milliers de personnes. C'est-à-dire que la Vallée d'Or, d'un seul coup, a absorbé des milliers de personnes.
Et la Vallée d'Or, elle ressemblait à quoi à cette époque-là ? Saint-Lary, c'était quoi comme village à cette époque-là ?
C'était un tout petit village. Saint-Lary, c'était un village, je ne sais pas moi, de moins de 400 habitants peut-être, hein, et avec une économie d'élevage, de, vous voyez, de paysanne.
Hein. Et alors ces Espagnols ne sont jamais repartis ? Vous évoquiez vos parents, ils ne sont pas repartis, ça veut dire aussi qu'il y a une terre d'accueil ici ?
Alors, si, une certaine partie sont reparties, notamment les personnes qui n'étaient pas combattantes, voilà. Elles sont ensuite reparties. C'est-à-dire que, quand elles sont arrivées en France, on les a dispatchées sur l'ensemble du territoire français. Moi, ma mère, par exemple, est partie dans la Sarthe ou dans le, vous voyez, du côté de Laval, par là, je crois. Et puis les combattants, eux, on les a renvoyés vers la Catalogne, puisqu'il y avait encore de la guerre, si vous voulez. Ouais. Et donc, les soldats sont repartis soit vers Hendaye pour ceux qui voulaient rejoindre le camp nationaliste, soit vers Perpignan, etc., pour rejoindre le camp républicain et continuer la guerre avec la bataille de l'Èbre et tout ça. Et donc, beaucoup de personnes qui étaient ici, notamment des femmes, etc., ont pu repartir chez elles. Voilà.
On a une idée de la proportion des gens qui sont repartis, ceux qui sont restés, qui ont fait leur vie ici, qui sont devenus des familles d'ici ?
Non, je ne peux pas le dire exactement, ça je ne sais pas exactement, un grand nombre quand même, parce que sur les gens qui étaient réfugiés, qui ont fait cette fameuse guerre d'Espagne, là, bien la plupart ne pouvaient pas revenir, je veux dire, pour les gens comme mon père, etc., qui avaient des responsabilités syndicales et autres, mais ces gens-là sont pas revenus, quoi. Ils sont revenus beaucoup plus tard, mais en visite dans la famille, c'est tout, hein. On parlait des liens très proches, c'est ce que je disais ici, là, quasiment à Saint-Lary, on peut dire que la moitié de la population est d'origine espagnole et notamment aragonaise.
Alors, on va parler maintenant du jumelage, puisque ça fait 40 ans que Saint-Lary et Boltagna sont jumelés. Au fond, à quoi ça sert ce jumelage ? À quoi ça sert de jumeler deux villes qui sont déjà liées ?
Oui, elles sont liées, mais c'est justement le but, et c'est inscrit dans les statuts, c'est de renforcer ces relations, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles soient permanentes, qu'elles soient toujours en développement, et que les gens se connaissent, parce que finalement, il y a de nouvelles générations qui arrivent sur le terrain, si on peut dire, ouais, et qui ne connaissent pas forcément l'histoire de cette relation entre les deux régions.
Donc la mission d'un comité de jumelage, c'est de transmettre la mémoire, l'histoire.
Mais c'est de transmettre la mémoire et c'est de faire des événements qui puissent justement fédérer ces volontés. C'est-à-dire que on propose des spectacles, on propose des conférences, on propose, si vous voulez, tout un tas d'événements qui sont des événements qui viennent un petit peu célébrer cette relation entre les deux communautés, qui sont proches effectivement par leur relation familiale et autres, mais malgré tout, il faut conserver, et pour conserver, il faut faire un effort particulier.
Alors, les habitants de Saint-Lary sont sensibles à ça, ils participent à ça, ils s'intéressent, ils sont curieux de ce patrimoine, au fond.
Ah oui, on peut dire que oui, parce que ce que je vous disais, la plupart ont des origines aragonaises, alors ils vibrent au spectacle de rotas, etc. Ça leur provoque quand même une certaine émotion, parce que c'est aussi une partie de leur culture. Beaucoup de ces gens ont récupéré une culture française, mais au fond de leur cœur reste toujours cette...
Les racines sont là, et voilà.
C'est la double culture, on peut parler de double culture. Et on peut pas, on renie pas cette double culture.
Donc cette double culture, vous l'entretenez, vous la bichonnez, si je puis dire, tout au long de l'année et tout le temps depuis 40 ans. Mais là, les 40 ans, vous mettez le paquet. Peut-être qu'on peut parler maintenant de la partie événementielle, puisque pour célébrer ces 40 ans de jumelage, c'est 3 jours de fête, carrément.
Trois jours de fête. Alors, c'est un petit peu aussi à l'initiative de monsieur le directeur de l'Office de tourisme, qui a eu des idées, une idée assez originale et intéressante, effectivement. C'est de faire des petits événements qui vont un petit peu mettre des points d'intérêt, si vous voulez, à l'ensemble de la fête. Mais on peut dire que la fête commence l'idée d'un repas convivial, esprit auberge espagnole. Chacun amène plus ou moins ses victuailles, si on peut dire, ou va voir des commerçants pour se faire livrer ou aller acheter des produits. Et tout ça est consommé ici, dans la cour de l'école. Il y a une grande tablée qui est organisée. Chacun vient ici et vient partager un repas commun, donc avec les touristes, avec les gens de Saint-Lary, et tout ça avec des groupes de musique qui viennent aussi appuyer un petit peu ce moment de convivialité.
Donc, alors ça, qu'on comprenne bien, parce que depuis 4 jours que Radio Présence est en immersion ici, on a beaucoup dit que le village était assez petit, mais qu'il gonflait en termes de population, parce qu'il y a énormément de touristes et de vacanciers, ils sont invités aussi, ils font partie de la fête.
Oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, on peut même dire que c'est en grande partie pour les touristes que cet événement a lieu, pour les gens de Saint-Lary, mais aussi pour les touristes, pour qu'ils découvrent autre chose que,
Découvrir Saint-Lary, c'est aussi découvrir ce jumelage, en fait. C'est ça que vous nous dites.
Absolument. Moi, c'est ça. Alors, les gens sont étonnés parce que, ils le découvrent pour beaucoup. On peut imaginer un Breton ou un gars du Nord qui arrive ici à Saint-Lary. Ils découvrent des spectacles de rotas, des gaiteros, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ouais. Ils découvrent une autre culture.
Et a priori, on peut se demander, en arrivant, pourquoi il y a cette ambiance espagnole à Saint-Lary alors qu'on n'a pas encore passé la frontière. Mais ces trois jours de festivité sont là aussi pour expliquer ça.
Oui, tout à fait, exactement. C'est dire, nous vivons dans un village qui a une relation très particulière avec l'Aragon et des gens qui ont des origines aragonaises, et on propose à tous ces visiteurs le fait qu'on est un village de double culture, on peut dire.
Voilà, on célèbre la tradition pendant 3 jours à Saint-Lary pour fêter ses 40 ans de jumelage avec Boltania. Pour terminer, Monsieur Santolaria, est-ce que vous pourriez nous dire avec quoi vous aimeriez que les gens repartent de ces 3 jours ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de ces 3 jours de festivités ?
Ce que j'aimerais qu'ils retiennent, d'abord, c'est qu'ils aient éprouvé une certaine satisfaction à voir ces spectacles, à découvrir cette culture quand même qui est assez originale et qui est assez émouvante. Enfin, pour nous qui sommes d'origine aragonaise, c'est quelque chose qui nous prend au cœur. Mais c'est aussi le cas de beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes repartent assez enthousiasmés par ce qu'on leur propose comme,
comme spectacle, cette musique assez originale et assez prenante, oui.
Merci beaucoup pour ces explications, puis belle festivité pour donc ces 40 ans de jumelage entre Saint-Lary et Boltania. Merci à vous.
Et bien, merci à vous aussi.
Voilà pour ce reportage. Merci à Anne-Rose Jankovic, voilà, qui était sur place. Saint-Lary se trouve évidemment dans les Hautes-Pyrénées. Voilà pour ce jumelage. 40 ans de jumelage donc de ce village de Saint-Lary avec Boltania en Aragon. La suite de cette émission dans les prochaines minutes, eh bien, c'est l'actualité régionale qui est de retour avec Clémence Roux. Et puis, on parlera dans un instant de la santé mentale des étudiants. Un jeune sur quatre présente des symptômes dépressifs. On va en parler dans un instant avec la rediffusion d'un entretien qu'Anne-Rose Jankovic avait réalisé avec la responsable de l'IUT Tech de Caux de Tarbes. Ça sera juste après la voix de Céline Dion. Et les derniers, les premiers. Bon appétit à vous qui nous écoutez dans notre région Occitanie.
Quand marcher sans autre but, plus de passé, de main fourbue, dans le néant du froid de la rue. Oubliée, dissolue, quand les alcools même ne saoulent plus, restent les phrases écorchées de ces phrases qu'on jette avant de renoncer. Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous serons d'éternité.
Avec un peu d'avance, on fait un point sur l'actualité régionale avec le journal. Le journal est présenté par Clément Sourou.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, un ouvrier de 48 ans a perdu la vie sur le chantier de la future ligne C du métro de Toulouse. L'accident s'est produit à La Bège. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime n'a pas pu être réanimée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Autre information, Toulouse est aujourd'hui la seule ville de France à disposer d'un réseau public de fibre optique et de 4G. Mis en place par la collectivité, ce réseau est réservé aux besoins des services municipaux. Il permet notamment de relier les bâtiments publics, les écoles, les caméras de vidéoproduction protection, les feux de circulation et plusieurs équipements connectés de la ville. En Ariège, les autorités rappellent les règles concernant l'utilisation des drones de loisirs. Sans autorisation, ils sont interdits dans les secteurs de montagne et les espaces naturels protégés. L'objectif est de préserver la faune, de faciliter le travail des secours et d'assurer la sécurité des usagers. Dans les Hautes-Pyrénées, deux randonneurs ont été frappés par la foudre alors qu'ils parcouraient le GR10. Ils ont été rapidement pris en charge par les secours. Un nouvel appel à la prudence est lancé à tous les amateurs de montagne, en particulier lorsque des orages sont annoncés. Et les passionnés d'astronomie, eux, ont rendez-vous dans la nuit du 12 au 13 août. Une importante pluie d'étoiles filantes sera visible dans le ciel en Occitanie. Pour profiter au mieux du spectacle, il est recommandé de s'éloigner des zones éclairées et de privilégier une observation en seconde partie de nuit. Un rendez-vous gratuit à partager en famille ou entre amis. Enfin, en Aveyron, les courses de caisse à Savon connaissent un succès grandissant. Entre vitesse, créativité et bonne humeur, ces véhicules sans moteur offrent un spectacle aussi original que convivial. Une discipline en plein essor qui attire chaque année de nouveaux participants et un public toujours plus nombreux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Radio Présence.
Merci Clémence Roux. Retour de l'info à 13h avec toute l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. La suite de cette émission, c'est avec Anne-Rose Jankovic. Il est question maintenant de la santé mentale des étudiants avec cette émission. Émission qui a été enregistrée et diffusée au mois de mars dernier.
Présence à Auch, 89.6.
Bonjour Frédéric Girard.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes responsable du département Tech de Co à l'IUT de Tarbes. Vous étiez venu nous voir il y a quelques mois pour nous présenter cette formation et on s'était promis de se revoir pour parler d'un autre sujet, d'un sujet qui est important et que vous portez avec beaucoup d'énergie à l'IUT de Tarbes, c'est la santé mentale des étudiants. Puisque vous avez décidé de mettre le paquet, j'allais dire, pour aider les étudiants à aller bien. Alors d'abord, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut parler de la santé mentale des étudiants? Ils vont si mal que ça, nos jeunes étudiants, en France et à Tarbes?
Alors, on aimerait qu'ils aillent bien mieux, effectivement, mais un jeune sur quatre environ, par exemple, présente des symptômes dépressifs. Et on constate que grand nombre, presque la moitié d'entre eux, se disent anxieux. Voilà, donc stressés pour différents motifs, hein, mais ça peut être par les examens, naturellement, ça peut être stressé par la découverte aussi d'une
honte quand qu'il faut arrivent. Partir du cocon familial, quitter peut-être sa région d'origine, etc. C'est ça qui les stresse?
Alors, au début, ça les enchante, et puis ils se rendent compte, effectivement, puisque ça concerne environ 75% de nos étudiants, que c'est pas si doré, rose que ça, qu'il faut apprendre à se gérer, à peut-être vivre seul ou en colocation avec des étudiants qui s'entendent plus ou moins bien, faire la vaisselle, faire
18-19 ans, hein, c'est ça.
Voilà, les tâches quotidiennes. Ouais. Effectivement, ils ont 18 ans, ils sortent du cocon familial et ils font la découverte de la vie. Donc,
Pardon Frédéric Girard, mais enfin, ce ne sont pas les premiers quand même à passer par cette étape-là. Ça fait des générations de jeunes qui quittent le nid familial pour aller faire les études, pour partir un peu à l'aventure. Pourquoi en 2026, c'est plus difficile pour les jeunes de vivre ça?
Parce que la société a également changé aussi, hein, les réseaux sociaux sont entrés en ligne de compte, voilà aussi une forme de précarité. Alors tout dépend des milieux bien sûr, mais si je prends l'exemple du campus Tarbais, nous on a 50% d'étudiants qui sont boursiers. Et donc qui peuvent avoir aussi des difficultés financières au quotidien. Il faut donc mener de front les études, parfois un travail en tant que salarié. Ça met pas mal de pression en fait sur leur dos. Bon, effectivement, on a tous été étudiants. Ouais. Après, dans des conditions aussi différentes, je pense. Quand on est étudiant dans une ville moyenne comme Tarbes, on est forcément amené, là, je parlais 75% des étudiants effectivement viennent de l'extérieur. Oui. Donc ils sont loin quand même de leur famille. Alors c'est vrai que moi, je, par exemple, j'étais à Paris, j'étais pas très loin. Je revenais dans la famille le soir. Enfin, j'étais pas livrée à moi-même. Et cet apprentissage-là peut-être peut effectivement être source d'un certain stress.
Ces jeunes là, quand ils sont dans cette situation de stress, quel recours ils ont au fond? Est-ce qu'ils ont plus de difficultés aujourd'hui à tisser des liens d'amitié, pour que ça aille mieux, pour avoir des groupes d'amis, pour pas être seul? Vous parliez des réseaux sociaux par exemple. On peut imaginer que ces réseaux sociaux pourraient les aider justement.
Alors, ça dépend de la personnalité aussi de chacun. Pour certains, les réseaux sociaux, c'est le seul moyen finalement de rencontrer d'autres personnes. Mmh. Et dans ces cas-là, je pense notamment aux étudiants qui sont sur les jeux vidéo et qui jouent en réseau. Donc ça peut être tout à fait positif. Par ailleurs,
mais la rencontre n'est que virtuelle.
Mais la rencontre n'est que virtuelle et au quotidien pour aller bien, pour avoir une bonne santé mentale, il faut aussi bien sûr avoir un lien social, en général physique, sortir, vivre des expériences en temps réel et réel. Et puis faire du sport, avoir ce type d'activité variée. Et donc si on est uniquement centré sur son ordinateur, les réseaux sociaux, etc., il manque quelque chose quand même dans le bien-être quotidien.
Ces difficultés là que vous décrivez, elles touchent plus les jeunes filles ou les jeunes hommes, ou c'est kiff-kiff bourricot?
J'ai l'impression que c'est équivalent. Il y a pas tellement de différence entre les garçons et les filles. Après, il peut y avoir des différences en fonction des formations. Je vois par exemple à l'IUT, on a une formation métier du multimédia et de l'internet.
Oui.
Et c'est vrai que le profil de ces étudiants est un peu plus particulier. Ils sont plus solitaires. Donc,
parce que plus sur les écrans.
Plus sur les écrans, ouais. Et souvent, c'est des gamers, donc qui sont vraiment habitués à justement au jeu en réseau, à être plutôt seuls. Alors que les étudiants de mon département, donc de commerce, sont plus ouverts. Il y a l'effet de bande, ils sortent assez facilement ensemble. Donc voilà, il peut y avoir aussi des différences de personnalité,
oui.
Parce que c'est pas les mêmes personnalités qui font n'importe quelle étude en fait. Donc il y a un impact.
En tous les cas, on entend que la santé mentale, elle peut dépendre de facteurs sociologiques, qu'elle dépend aussi un peu de la formation et du caractère du jeune, mais il y a d'autres facteurs. Vous me disiez en préparant cette émission que les facteurs un peu nouveaux, ou en tous les cas qui posent vraiment un problème aujourd'hui, ce sont les dépendances à l'alcool, aux drogues, etc. Et ça, c'est un paramètre vraiment important dans l'état psychologique ou dans la santé mentale des jeunes étudiants aujourd'hui.
Alors ça entre en ligne de compte, mais c'est un élément parmi d'autres. Je dirais que le premier élément, c'est quand même l'isolement, l'éloignement familial, qui peut être une source de problèmes. Mais après, effectivement, il y a cette découverte de la vie étudiante, des soirées, des excès.
Donc c'est pas bien de rester tout seul, mais quand on sort, faut faire attention.
Voilà, effectivement. Donc c'est bien d'avoir un équilibre, tout simplement faire du sport, sortir, mais peut-être ne pas consommer avec autant d'excès, notamment de l'alcool, qui reste quand même la première source d'addiction chez les jeunes.
Avant le cannabis.
Alors oui, avant le cannabis. Le cannabis vient ensuite. Après, c'est vrai qu'il se vulgarise de plus en plus. Pour ce qui est des...
Ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire quoi, se vulgarise de plus en plus? Ça veut dire que c'est très accessible aujourd'hui,
oui.
C'est facile de se procurer du cannabis et que tout le monde peut en avoir quand il veut, c'est ça?
Oui, tout le monde peut en avoir quand il veut, dans les soirées, ça circule et c'est très simple. Donc la tentation, elle est là. Ils n'ont pas forcément cette idée de la mesure au démarrage. Je parle de l'alcool, hein, bien évidemment, parce que on n'arrête pas de leur répéter que le cannabis a des effets délétères sur le cerveau. Jusqu'à l'âge de 25 ans, les connexions nerveuses ne sont pas terminées. Donc le cannabis détériore les neurones et dégénérer sur par exemple des crises de schizophrénie et des schizophrénies, une schizophrénie qui s'installe.
Irréversible donc.
Oui.
Et quand vous leur dites ça, ils vous croient, ils réagissent comment ?
Ils nous regardent avec des yeux ronds, ils se regardent en se disant « Tiens, on prend des risques, je pense. »
Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'IUT et des enseignants de veiller à la santé mentale des étudiants et de les alerter sur les dangers potentiels qu'ils peuvent prendre en consommant avec excès de l'alcool, du cannabis ou autre chose ?
Alors, oui. Ça fait partie de nos missions aussi d'accompagnants. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je viens avec une casquette un peu particulière puisque je suis formatrice en premier secours en santé mentale. Et donc on a cette possibilité sur le campus de l'UTOP, parce qu'on parle de l'IUT mais c'est le campus de l'Université Technologie Tarbes-Occitanie-Pyrénées plus globalement, de faire des formations auprès des étudiants, justement pour leur apprendre à détecter chez les autres et aussi chez eux-mêmes les premiers signes en fait d'un mal-être psychologique. On forme des étudiants, on forme également des personnels, hein, ça peut être des personnels techniques certes, ou des secrétaires qui sont en relation assez fréquente avec les étudiants, des directeurs d'études qui communiquent quotidiennement au sujet notamment de l'absentéisme. Toutes ces personnes peuvent être elles-mêmes des relais d'information, de prévention et les premiers peut-être à évaluer chez un étudiant quelque chose qui ne va pas.
On marque une petite pause, Frédéric Gérard. On se retrouve dans un instant, puis vous allez nous expliquer justement quels sont les signaux qui manifestent que ça va pas bien pour un étudiant. À tout de suite. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Girard. Nous parlons de la santé mentale des étudiants à Tarbes et au-delà de Tarbes, puisque c'est un sujet qui concerne les jeunes partout en France et sûrement partout ailleurs. Vous nous parlez, Frédéric Girard, de cette formation premier secours en santé mentale qui est proposée pas seulement aux élèves, mais aussi aux formateurs au sein de l'UTOP. Ça veut dire qu'il y a des signaux qui sont repérables, peut-être plus facilement que d'autres, pour dire attention, cet étudiant-là, il va pas bien, on doit faire quelque chose pour lui. Quels sont ces signaux, les premiers signaux qui vous sautent aux yeux pour voir qu'un étudiant va pas bien ?
Je dirais tous les changements qu'on peut observer chez cet étudiant. Donc ça peut être des changements de comportement. Un étudiant qui participait bien en classe, par exemple, et puis soudainement, il s'isole, il a des difficultés il a plus d'appétit finalement à entrer en relation avec les autres dans la classe, avec les autres étudiants. Donc ça peut être un changement comportemental, ça peut être un changement d'humeur au niveau des émotions, plus.
Donc ça c'est pas forcément lié à un produit addictif, mais ça peut être simplement le moral qui dégringole, quoi.
Ah oui, bien sûr. C'est pas la seule source, hein, ouais. L'addiction en général, elle vient pour compenser un problème
c'est
de d'anxiété.
C'est que ça va déjà pas bien avant, quoi.
C'est corrélé effectivement. Aux maladies, aux troubles psychiques en général.
Oui.
C'est-à-dire que dans tous les troubles, que ce soit la dépression, l'anxiété et troubles voilà, dans la globalité, les addictions, drogue et alcool sont toujours très associées.
Donc c'est la dégringolade, ça peut aller assez vite, et vous êtes là pour dire, avec cette formation premier secours en santé mentale, pour dire attention, là on a repéré qu'il y a des choses qui vont pas, on va le repêcher. Comment vous faites en fait, une fois que vous avez repéré qu'un jeune ne va pas bien, quel levier vous avez pour lui venir en aide en fait? Et les personnes qui suivent cette formation premier secours santé mentale, quel levier elles ont aussi, ces personnes là une fois qu'elles l'ont détecté, ce jeune qui va pas bien, qu'est-ce qu'on fait?
Alors déjà, la première chose, c'est de leur donner quelques connaissances sur les différents troubles psychiques. On aborde les plus courants. Alors nous, on est formateurs, avec mon collègue, donc on est deux sur l'UTOP. On est formateurs pour les adultes, donc c'est à partir de 18 ans, avec des troubles qui sont bien spécifiques, parce que sur la formation jeune, donc plutôt destinée aux collégiens et lycéens, il y a d'autres troubles qui peuvent être en jeu, comme par exemple les troubles du comportement alimentaire ou la scarification. Donc nous, on aborde les quatre grandes familles de troubles psychiques: les troubles de la dépression, les troubles psychotiques, les troubles anxieux et les addictions. Donc déjà, on leur donne un certain nombre de connaissances. On les met en situation aussi de jeu de rôle, où ils doivent... on crée des jeux de rôle, donc il y a forcément une personne qui va mal et une personne qui accompagne. Donc on leur apprend en fait un protocole d'action, qui aujourd'hui a été éprouvé par scientifiquement aussi, et ça fait partie du protocole de l'association Premier Secours en Santé Mentale. Donc en fait, ce sont des techniques d'approche. Comment on fait quand on perçoit qu'un camarade ne va pas bien, s'isole, devient plus irascible, par exemple?
Mais c'est pas simple.
Voilà, c'est pas simple. Comment l'approcher et lui dire, tout en évitant, bien évidemment, de l'évaluer, de le juger, être dans une optique d'écoute active, bienveillante. On apprend des techniques pour justement le rassurer, faire par exemple des comparaisons, bien évidemment, il ne s'agit pas de dresser un diagnostic, parce que on ne forme pas des médecins et nous ne sommes pas médecins,
mais dire que il peut être aidé, quoi, qu'il n'est pas seul.
Mais voilà, c'est de dire, tu te rends compte, peut-être avant, tu sortais, t'avais l'air toujours très, très enthousiaste, et du jour au lendemain, tu t'isoles, tu vois plus tes amis, tu fais plus de sport, et qu'est-ce qui ne va pas? Donc, essayer d'enclencher, en fait, un dialogue. Rassurer, encourager à aller voir des professionnels de santé. Les professionnels de proximité, déjà, c'est l'infirmière de l'établissement, qui redirige aussi sur la psychologue de l'établissement, qui fait quelques heures de permanence donc sur le campus. Mais ça peut être aussi informer sur des ressources existantes, sur les types de thérapies, sur différents dispositifs qui sont à disposition des étudiants.
Et ça marche, enfin, vous avez vu déjà des résultats, des étudiants qui n'allaient pas bien, qui ont accepté d'être accompagnés et qui ont pu remonter la pente. Vous êtes témoin de ça aussi. Quels résultats vous avez sur cette formation?
Alors, de ceux qui... Je ne peux pas savoir ceux qui vont voir d'autres étudiants. Ouais. Là, j'ai pas de
contrôle. En tous les cas, ils sont
contrôle.
Repérables. Les étudiants qui sont formés, qui peuvent aider les autres, on peut les repérer.
On les identifie, oui. Maintenant, ça reste une démarche très personnelle, en réalité. Et l'idée, c'est surtout de faire un soutien de proximité. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire... Je peux intervenir avec des étudiants que je ne connais pas. Alors, s'ils ont l'opportunité de le faire, pourquoi pas, ça peut être au cours d'une soirée ou autre. Mais nous, on se dit que plus il y a d'étudiants formés et plus au moins dans leur cercle vraiment intime, personnel, ils seront en capacité de repérer des petites choses qui ne vont pas dans leur entourage. Voilà. Rien que ça, ça serait super.
Parmi nos auditeurs, il y a peut-être des parents qui s'apprêtent ou qui sont en train de chercher un lieu d'études pour leurs enfants pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents pour peut-être pour les rassurer, parce que là on dresse un tableau qui est un peu dramatique, mais tout n'est pas noir quand même. Il y a des belles choses aussi dans la vie étudiante, Dieu merci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents? Sans doute que les parents sont les premiers collaborateurs de la santé mentale de leurs enfants.
La question c'est quand les enfants s'éloignent des parents. Bien évidemment, au quotidien, être attentif à son enfant, repérer justement tous ces changements.
Donc un enfant qui appelait beaucoup et qui d'un coup n'appelle plus fréquemment ses parents, là ça peut être un signal que peut-être ça va pas très bien à l'autre bout de la France.
Oui, ou dans l'intonation. Après, il y a aussi des enfants qui savent bien mentir, hein, pour ne pas effrayer les parents, ne pas les inquiéter. Ça se sent quand même quand un enfant va bien, quand il fait part de ses projets, quand il s'exprime, s'il est enthousiaste, ça se sent en fait. Après, nous on met en place quand même un dispositif d'accompagnement assez rapproché, parce qu'on est très attentif à l'assiduité, et c'est un indicateur important de bien-être. Déjà, un étudiant...
Oui, un jeune qui vient plus en cours, c'est un jeune qui... Il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon.
Exactement. Et donc, dans ces cas-là, on l'appelle, on essaye de comprendre la raison. Des fois, il vient spontanément nous l'expliquer. Mais je pense que c'est effectivement être attentif au changement. Voilà. C'est le changement qui interpelle.
Merci beaucoup Frédéric Gérard. Peut-être qu'on peut terminer quand même en disant, je ne sais pas si vous l'avez ce chiffre, mais le nombre de personnes à l'IUT de Tarbes et à l'UTOP de manière plus large, qui sont formées à cette formation premier secours en santé mentale. Est-ce que d'abord ça existe depuis combien de temps et combien de personnes ont pu se former?
Alors nous ça fait 3 ans. Alors depuis on a des étudiants qui sont partis, hein, parce que la formation dure 3 ans aussi. Donc
ils y veilleront ailleurs.
Voilà, trois sessions par an de 16 étudiants environ. Et par contre il y a une bonne cinquantaine de personnels formés au premier secours en santé mentale à l'UTOP, aussi bien à l'école d'ingénieurs que à l'IUT.
Voilà, merci beaucoup Frédéric Gérard. C'était vraiment très important d'aborder cette question de la santé mentale de nos jeunes étudiants. Ils sont quand même quelques-uns à Tarbes et c'est important de veiller à cette santé mentale. C'est ce que vous faites à travers donc cette formation premier secours en santé mentale déployée à l'UIT de Tarbes et à l'UTOP. Merci beaucoup Frédéric
Avec
Gérard.
Avec plaisir, merci de m'avoir donné cette opportunité.
Présence.
Voilà pour cette émission, c'était une rediffusion, émission qui a été diffusée en mars dernier, émission réalisée par Anne-Rose Jankovic. La suite de cette émission, on va parler du golf. Le premier golf en France est arrivé à Pau, c'était en 1856. On en parle dans un instant avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Il était encore que des enfants.
l'Office de tourisme de Lourdes.
Pitch & Putt, c'est le nom de notre chronique aujourd'hui avec Julie de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Julie.
Bonjour Gilles.
Vous l'avez compris, on va donc parler du golf avec le premier golf en France qui est arrivé dans les Pyrénées, c'était à Pau.
Exactement, le premier golf hors du Royaume-Uni à l'époque, c'était le tout premier sur le continent en 1856 à Pau. En effet, ce sont des officiers britanniques qui étaient installés dans la capitale béarnaise qui ont apporté le golf avec eux dans leur valise, tout simplement parce que le golf, les origines du golf remontent au 15e siècle en Écosse, en tout cas le golf moderne avec les règles établies qu'on connaît aujourd'hui, donc avec des règles et des parcours structurés, et l'objectif du jeu, pour situer, c'est tout simplement de mettre la balle jusqu'au trou en un minimum de coups. Un vieil adage écossais d'ailleurs parle du fait qu'on peut pratiquer le golf même quand il fait beau. Donc c'est plutôt pratique, surtout à Lourdes aussi. Et une fois donc le golf arrivé dans les Pyrénées en 1856, c'est vrai qu'il correspondait vraiment à un cadre de vie et à une idée en fait que se faisait du golf à l'époque. C'était du sport, donc pour les Anglais il y avait vraiment le côté fair play, les règlements, c'était très codifié. Et il y avait aussi le fait que ce soit pratiqué en pleine nature, donc en plein air. Et la proximité des Pyrénées, c'était bien connu déjà à l'époque. Les Anglais aimaient beaucoup le climat pyrénéen, de Pau et du Piémont aussi, jusqu'à Lourdes même. C'était quand même vraiment, c'était agréable et ça permettait de concilier la pratique sportive et ce plein air qui était très recherché.
1856, donc arrivée du premier golf en France à Pau, dans les Hautes-Pyrénées, à Argelès, il y avait un golf qui a été créé en 1890.
Voilà, l'un des premiers golfs ici sur les Hautes-Pyrénées, c'était Argelès-Gazost en 1890, donc qui a sûrement suivi aussi les routes thermales pour venir quand les personnes venaient prendre les eaux dans les vallées. Et à Lourdes, c'est vrai qu'il a été un peu plus tardif, il est arrivé en 1988, le golf de Lourdes, et il s'est posé, comme on disait, sur un cadre naturel d'exception que nous avons ici, c'est le lac. C'était sur une ancienne lande du lac qui était pas utilisé finalement à l'époque, qui était en jachère, en friche. Et quand le lac a été cédé à la mairie en 1989, donc la conception avait commencé juste avant par Olivier Brison, c'était un golf de 18 trous qui faisait plus de 5600 mètres de parcours. Le relief naturel du lac, qui est un lac glaciaire, donc c'est un relief qui est quand même assez escarpé, il n'y a pas beaucoup de zones plates, et également des blocs erratiques. En fait, les blocs erratiques, ce sont ces gros rochers qui ont été déposés par le glacier en se retirant et qui font les spécificités de ce golf, de ce parcours. C'était vraiment un parcours très très escarpé finalement, avec un terrain vallonné, mais avec une vue magnifique sur tout le lac.
Donc le golf de Lourdes donc comportait 18 trous, vous l'avez dit, il a été créé en 1988, il a été fermé en 2023 et remplacé par le fameux Pitch & Putt.
Exactement, remplacé en 2023, il a eu une reconversion, le golf de Lourdes. C'est vrai que c'était un golf qui était classifié par les pratiquants comme étant difficile. On n'était jamais à plat et c'est vrai qu'il était assez long. Donc le golf, la pratique du golf, c'est quand même sur plusieurs heures, étalé sur plusieurs heures. Il y a plusieurs techniques. Donc il faut d'abord approcher la balle du trou. Ensuite, c'est vraiment très spécifique et ça peut être long. Et le Pitch & Putt, finalement, va être une version du golf un petit peu, pas forcément simplifiée, parce que c'est pas forcément plus facile, mais en tout cas un peu plus raccourci. Donc le Pitch & Putt de Lourdes maintenant, ça va reposer sur deux gestes qui donnent le nom à la pratique, le pitch, donc l'approche de la balle, et le putt, donc le roulé final pour arriver jusqu'au trou. Là ça va être des trous qui sont pas très distants, ça va être entre 50 et 90 mètres, donc moins éloigné, et ça va être voilà 6 trous et ça va être plus rapide, ça va durer 1 heure, 2 heures si on est en famille. Après c'est une pratique qui est assez conviviale, on peut passer à tour de rôle et ça peut être une très bonne activité pendant quelques heures.
Voilà, et on peut donc pratiquer cette activité donc à proximité, pour ceux qui ne connaissent pas, du lac de Lourdes, dans un cadre préservé, un cadre nature. Hein.
Exactement, le lac de Lourdes, il est à peu près à 4 km du centre-ville, donc on peut y accéder très facilement. Et là, le tout, c'est d'aller au niveau du clubhouse et on peut louer le matériel. On peut louer les clubs, on peut louer les sauts de balles et pratiquer le pitch and putt à l'occasion pendant le séjour. C'est très agréable.
Voilà, si vous venez de nous rejoindre, on a parlé du golf, le premier golf donc en France qui est arrivé. C'était à Pau en 1856. Et c'est grâce à Julie que nous avons appris tout ça. Un grand merci. Julie, je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle balade en pays de Lourdes.
Merci beaucoup, à bientôt.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.
Les termes 92.7
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Nouvelle session de négociations directes entre le Liban et Israël ce mardi à Rome, la ville éternelle.